Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Gaëlle Mac.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une de Challenge cette semaine. Normes, réglementation, bureaucratie, ça reste vrai plus que jamais. Et pour illustrer tout ça, arrêtez d'emmerder les Français, je ne vous dis même pas quelle est la figure qui figure justement à la une, vous l'avez bien compris, c'est Georges Pompidou, célèbre formule. Patrick Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Directeur général opération Dolnest, le family office de Jean-Michel Aulas, et puis Léonidas Kalogiropoulos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de médiation et arguments, délégué général de l'Open Internet Project et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République. Vous avez signé en fin de semaine une chronique dans les Échos, mais je me suis dit c'est du Léonidas comme d'habitude, c'est les entrepreneurs qui vont sauver le monde.
Bien, écoutez, en tous les cas, elle prend un peu de distance par rapport au libéralisme, ne serait-ce que
elle
deux
prend un
des
peu
sujets.
De distance par rapport au libéralisme.
Oui,
oui.
Et j'essaie de consacrer ce qui probablement va nous réunir ce matin, qui est une doctrine qui s'appelle l'entrepreneurialisme, qui met l'entrepreneur à l'épicentre de la réflexion économique plutôt que la liberté, ou plus exactement, plutôt que le consommateur. Parce que le libéralisme, et ce sont des débats que j'entends sur nos antennes, sur vos antennes.
Oui, non, mais là, vous.
Régulièrement.
Là, la polémique peut naître, allez-y.
Parce que Jean-Marc Daniel qui se fait...
C'est
souvent,
marrant, je suis surpris que vous ayez pensé à Jean-Marc en parlant
c'est étonnant,
de le consommateur
hein,
avant
c'est
tout.
Vrai qu'il pense que le consommateur doit être l'aiguillon de tout. Donc, par rapport à un sujet comme celui des géants du numérique avec le DMA qui va nous intéresser ce matin, ou la question de l'ultra fast fashion avec des vêtements à 1 euro fabriqués dans des conditions douteuses de l'autre côté de la planète, des libéraux qui considèrent qu'il faut rester dans la pureté cristalline de leur doctrine disent aux consommateurs ils gagnent, il n'y a rien à dire. Mais les consommateurs ils gagnent peut-être instantanément, de même d'ailleurs qu'ils gagnent toujours quand il y a du dumping, instantanément. Et puis après, les choses s'inversent, parce que dans la durée, qu'est-ce qui se passe quand on a du dumping ? On a eu un prix très attractif, tous les concurrents meurent et on se retrouve devant un monopole. C'est ce qui se passe dans le numérique, où on a été écrasé par des géants, et c'est ce qui se passe dans les textiles, ce qui risque de se passer également dans la voiture électrique. On a des produits qui nous arrivent dans des conditions qui ne sont pas celles d'une concurrence par les mérites, c'est-à-dire parce que l'on a été plus inventif, plus habile, dans une plus innovant, mais simplement parce que l'on a casser les prix. Et donc, dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe ? Les entrepreneurs concurrents se retrouvent décimés, nos consommateurs se retrouvent sans emploi, et on en arrive à une société dans laquelle on donne des allocations pour être les consommateurs d'autres choses fabriquées ailleurs. C'est un modèle qui échoue, et d'ailleurs, l'échec total que nous en voyons sous nos yeux, c'est la désindustrialisation. Et donc, l'inversion de ce système, me semble-t-il, doit mettre les entrepreneurs au cœur du système. Ça crée des emplois, ça crée de la richesse, et ça créer de l'innovation. On le déclinera en détail peut-être sur chacun des points qui suit, mais en tous les cas, le libéralisme nécessite tellement d'explications qu'il me semble que le terme est un peu usé et n'arrive plus tout à fait à structurer une pensée cohérente.
À ce stade, vous êtes séduit par ce que nous dit Léonidas, Gaël et puis Patrick Bertrand ?
En tout cas,
Pensons pas uniquement aux consommateurs.
Voilà,
le producteur a son rôle à jouer.
Ne pensons pas uniquement aux consommateurs. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans la critique du libéralisme, c'est pas vrai que le consommateur est toujours rationnel et bien informé. On le sait tous. Donc,
quand il achète un prix, il est très rationnel.
Non, mais par exemple,
il aime l'agriculteur, mais il va pas payer le prix de ses produits.
Oui,
je comprends,
mais dans le cas de l'ultra fast fashion, par exemple, c'est intéressant de voir que on peut obtenir ce même type de prix sur Vinted, par exemple, en achetant des vêtements de meilleure qualité.
Donc, d'occasion, mais de meilleure qualité.
De seconde main, mais de meilleure qualité. Donc, finalement, il y a aussi une influence très forte du marketing, des influenceurs, de la publicité, voilà. Donc, on sait très bien, et c'est quand même un peu le rôle du capitalisme, de nous faire désirer des choses qui ne sont pas forcément essentielles ou dont nous n'avons pas forcément besoin. Donc, je ne pense pas qu'il faille suivre le consommateur forcément aveuglément.
Réaction de Patrick Bertrand. Après, je rentre dans le détail de ce qui pourrait se trouver dans cette proposition de loi.
Mais ce que vient d'évoquer Léonidas est passionnant. J'aurais rajouté l'entreprise. Parce qu'on l'a vu, notamment dans la période Covid, l'entreprise est un facteur de stabilité de la société. Et donc ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel.
Mais si vous dites ça à Léonidas, vous risquez rien.
Mais j'aime bien, absolument. j'aime bien, je suis toujours un peu en retrait quand on évoque le sujet libéralisme, parce que dans l'esprit, libéralisme égale walou-walou, tout le monde peut faire ce qu'il veut, etc. En réalité, c'est faux. Parce que dans le libéralisme, et on le voit dans les grands pays libéraux, il y a intervention de l'État, il y a fixation des règles. Et si on revient sur l'ultra fast fashion, en dehors du sujet qu'on est rentré dans une civilisation de l'apparence, le sujet de fond qui a été posé par les agriculteurs, c'est la cohérence des règles.
Exactement, mais
comment peut-on accepter qu'en France, on puisse vendre des produits qui n'appliquent pas les règles de travail des enfants, d'esclavagisme, de pollution, enfin d'empreinte carbone, etc., qui s'imposent aux fabricants en Europe. Et le sujet de fond, il est là. Et donc, on n'est pas du tout dans protectionnisme au l'affreux mot, on est juste dans le fait de dire une concurrence loyale se développe à partir de règles communes.
Là, il y avait
évidemment, ça, c'est des mots de principe, mais le sujet, c'est que comment internationalisons-nous le sujet des règles. Mais on pourrait parfaitement interdire. Ça existe déjà dans les appareils dangereux pour les enfants ou les appareils électriques. Il y a déjà des normes.
On avance. On avance. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Il a été très clair. Ça fait déjà quelques semaines qu'il a dit ça. Il a parlé de ces jeunes angoissés pour le climat qui achètent de la fast fashion. La fast fashion, ça consiste à aller chercher des produits sur des plateformes de e-commerce installées en Chine, qui vont venir directement de Chine. Ça va vous coûter entre 1 et 3 ou 4 ou 5 euros en fonction des produits. C'est-à-dire qu'il y a un sujet. L'empreinte carbone est désastreuse. Je parle même pas de l'empreinte économique et sociale. Et donc, voilà une proposition de loi qui arrive. Elle veut taper le consommateur au portefeuille. En instaurant un malus. Alors, un malus qui pourrait aller jusqu'à 10 euros. Dans la limite de 50% de la valeur du bien. Un bien vendu 5 euros, ce sera 2,50 euros max. La proposition de loi veut aussi encadrer la publicité de cette mode dite éphémère. Alors, on pourrait imaginer des messages qui ressemblent un peu aux messages de la loi E20. Ne surconsommez pas de médicaments, n'achetez pas 70 trucs par an, ou ne les jetez plus. Et puis, il y a un petit relent que je trouve protectionniste, puisqu'on s'attaque quand même à des sites qui n'ont pas d'implantation économique sur le sol de France, pas de boutique, qui sont des plateformes numériques. Et donc, il est prévu un bonus pour le gentil qui est installé chez nous et qui aurait des pratiques plus développement durable. Moi, j'y ai vu du protectionnisme, Patrick Bertrand, quand même.
Et je suis désolé, je considère que c'est établir une concurrence loyale. Les agriculteurs l'ont exprimé, je l'ai évoqué très rapidement à l'instant. Vous pouvez produire des salades, de la viande, etc. d'une certaine façon, et vous ne pouvez pas les produire de la même façon en France, en Europe, parce que vous avez des règles.
Et on a évoqué les betteraves, on a évoqué les pommes, on a évoqué...
ce qui vaut pour l'agriculture vaut également.
Mais exactement,
c'est
une image, puisque c'est d'actualité, tout le monde le comprend. C'est le principe du libéralisme, c'est la concurrence loyale. Et cette concurrence loyale, elle n'existe pas. Clairement, il faut le prendre en compte et l'accepter.
Les réponses sont protectionnistes.
Outre l'impact climat.
Le textile, c'est assez dramatique. Et notamment la culture du coton.
Non, mais je ne suis pas d'accord sur l'aspect protectionniste, parce qu'en regardant la proposition de loi dit simplement que les sites qui ont, par exemple, qui font, je crois que Chine, ils font 6000 nouveaux modèles par jour.
C'est 6-7000. Oui,
donc voilà, je veux dire, il y a une caractérisation. Je ne pense pas qu'on attaque les vêtements américains ou les vêtements même chinois qui seraient de bonne qualité, qui seraient à un prix raisonnable, etc. Donc non, je pense qu'à un certain moment, là, il y a 3 milliards de vêtements par an achetés en France. 3 milliards. Je veux dire, deux fois plus que dans les années 80. Est-ce que véritablement, on est plus heureux que dans les années 80, on est mieux habillé que dans les années 80? Ces vêtements sont du plastique, c'est du polyester, c'est vraiment du plastique. Ouais. Et en fait, on a inventé quasiment le textile jetable. Et je veux dire, quelle est la dernière mode? Quelle est la dernière mode? C'est d'ouvrir carrément des colis mystères. On sait même pas ce qu'il y a dedans.
Ah oui, ça c'est terrible. Voilà. L'histoire des colis mystères.
Et donc,
oui.
Voilà.
Il y avait un grand papier dans le Parisien.
On est sûr que la moitié de ce qu'il y a là-dedans ne va pas nous intéresser et donc va partir directement à la poubelle ou voilà. Donc,
ou alors est revendu.
Ou revendu éventuellement. Mais je veux dire, dans le cas de Chine, ces vêtements ne sont même pas du tout revendables. Au bout de deux lavages, c'est terminé. C'est un vêtement jetable.
Vinted ne les prend pas. Hein.
C'est un vêtement jetable. Voilà, c'est tout.
Donc en fait,
c'est un nouveau concept, c'est le vêtement à usage unique.
Ouais, je ne sais pas techniquement comment on va faire le tri. Où est-ce qu'on va imposer le malus, par exemple? Parce que vous me disiez un vêtement qui viendrait du bout du monde, mais qui serait un vêtement de qualité vendu à son juste prix. Je sais pas comment c'est. Techniquement, je sais pas comment on va faire. Hein, mais
non, mais Léonidas, d'abord, juste un petit bémol par rapport à l'importation de vêtements qui viennent du monde entier. C'est vrai qu'on a sorti, et c'est un des grands miracles du libéralisme ou du capitalisme, on a sorti la planète de la grande pauvreté. Il n'y a plus les grandes pauvretés que l'on avait au milieu du siècle dernier. Et c'est une réussite de l'internationalisation. Et
c'est la grande vertu de la mondialisation. Voilà, personne ne l'a remis vraiment en cause.
Alors, il y a eu des dommages collatéraux et nous les connaissons bien. Maintenant, commencer à corriger le tir, commencer à mettre des taxes qui compensent, qui n'interdisent pas, mais qui rééquilibrent, mettre un certain nombre d'alertes auprès du consommateur sur tous les dommages collatéraux. On ne va pas les fermer, ces sites. Donc, on n'est pas en train de les interdire.
Et là, il y a une primovis actuellement.
Une primovis.
Mais oui, c'est une primovis. C'est vrai. Plus on délocalise, plus on fait travailler les gens dans des conditions terribles et avec des très bas salaires, plus on utilise de teintures chimiques, etc. Et plus on est compétitif.
Oui,
voilà.
On ne peut pas vouloir d'une concurrence qui est la prime au plus bas et au plus au plus nuisible. Si effectivement on a été capable d'avoir des tarifs pareils parce que l'on n'a respecté aucune des règles sociales ou environnementales, véritablement, en quoi est-ce que c'est une concurrence vertueuse? Ouais. En quoi on peut, nous, considérer que, en tant que promoteur d'une concurrence qui amène vers le progrès, que ce serait le résultat du progrès?
Exactement.
Donc, vous êtes tous d'accord.
On est en phase pour corriger. Donc, si le mot libéralisme ne correspond pas à ce qu'on est en train de faire, eh bien, changeons le mot. Voilà.
Et alors, même que la dépense vêtements, entre guillemets, n'a pas diminué, mais effectivement, on veut changer tout.
Oui, on en
minutes,
achète juste plus.
Alors qu'il y a plein de possibilités autres. On parlait de la seconde main qui est en train de connaître un développement absolument remarquable.
Mais vous avez raison, mais vous avez d'autant plus raison qu'on est bien en train de voir les limites, vous le disiez Gaël, de ce culte que le consommateur aurait toujours raison et donc il faut laisser faire exactement ce qu'il veut. Non, à l'évidence, il y a quand même des moments où il n'est pas...
Non, mais en plus, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut, on lui suggère de faire... le marketing et la publicité aussi l'amènent dans
bien
un...
Sûr.
Je veux dire, à des vouloir à avoir certains besoins ou certaines envies.
J'ai un auditeur qui prend la défense de Jean-Marc Daniel, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, il s'appelle Adado. Il me dit tout le monde est consommateur, mais tout le monde n'est pas producteur. Vive le consommateur, vive la liberté.
Bon, ravi de débattre avec et très amicalement avec Jean-Marc Daniel.
Non, mais parce qu'on assimile consommateur à citoyen. Il y a une erreur à un moment donné réelle.
Oui, puis on serait intéressant de savoir quel est le métier de ce monsieur.
Mais voilà. En tous les cas, il est intéressant juste de rappeler à cet auditeur que le citoyen consommateur, ça serait pas mal qu'il ait un boulot. Pour avoir un boulot, il faut qu'il soit dans une entreprise. Et pour ça, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui jouent armes égales avec ce qui arrive sur leur marché.
Voilà, créer des emplois sur le territoire.
Absolument, et sinon on a tout cassé. Et véritablement, on voit que l'on est capable de tout casser avec un libéralisme qui agit sans discernement.
Bon, il y a un auditeur, Lionel, il me dit qu'il faut tout simplement interdire. Vous dites Chine ou Shine?
Shine.
Oui. Shine, oui. Shine. En France Chine, et en Europe. Aussi. Stop, voilà, ouais. Il s'appelle Lionel.
Non mais là, on est dans le protectionnisme si on interdit. Oui, mais par contre, si on met en place des règles communes, on n'est pas dans le protectionnisme. On est dans la concurrence loyale.
Absolument.
C'est le point essentiel. On confond en permanence les sujets.
Et j'étais assez d'accord avec la chronique de François Langlais hier dans Le Parisien. C'est un peu ce que j'avais dit d'ailleurs la semaine dernière sur le fait que réformer l'assurance chômage pour la quantième fois peut-être, mais c'était pas le moment de le faire. Et c'était un moment qu'on choisissait qui était en contradiction avec les engagements même de l'exécutif et du président de la République qui avait clairement indiqué que nous mènerions des politiques non pas pro-cyclique, mais contra-cyclique. C'est-à-dire qu'on durcit les choses quand le ciel est bleu. C'est là où on répare, en fait. Et puis, on assouplit les règles lorsque ça se dégrade. Vous partagez mon point de vue? Peut-être, pourquoi pas, mais pas maintenant. Léonidas Kalogiropoulos.
Je suis gêné sur ce point parce que...
Est-ce qu'il va y avoir une réforme de l'assurance chômage? On ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Mais,
Je suis assez d'accord que l'on reste protecteur quand il y a une économie qui se dégrade. La question qui doit se poser, c'est est-ce que la capacité à retrouver de l'emploi n'est pas freiné par un environnement d'aide sociale qui est mal ajusté. Et cette réflexion qui consisterait à dire on n'arrive pas à aller au plein emploi parce qu'on est freiné par nos propres règles sociales est une réflexion que je trouve importante. Et si on le vérifie, eh bien, je comprends que même en situation économique difficile, eh bien, le fait de les corriger peut amener vers plus d'emplois. Je voudrais simplement illustrer ce propos en vous disant que on voit dans le travail temporaire à quel point des salariés sont incités à ne pas travailler davantage parce que passé un certain niveau, eh bien, ce qu'ils gagnent en plus en salaire, ils le perdent tellement plus en allocation
qu'ils ne veulent pas
aller au-delà de 60% de leur travail. Et c'est subi, mais donc c'est vraiment dissuasif à travailler. Si ces règles-là peuvent être modifiées, je pense que c'est vertueux.
Je ne sais pas si c'est le moment de le faire. Bon, il y a eu l'annonce de la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui concerne environ 240 000 personnes qui basculeraient en RSA, sachant que l'ASS, contrairement au RSA, a la possibilité sans travailler de continuer à ouvrir des droits à la retraite. Une information ce matin était que probablement il y aurait la clause du grand-père, c'est-à-dire que ce ne sont que les nouveaux entrants qui seraient concernés par cette fin de l'ASS.
C'est long, mais elle est vertueuse. La clause du grand-père, je pense que tout le monde y est familier.
La clause du grand-père, c'est que vous laissez les anciens dans dans le régime qui était leur, et puis vous l'appliquez aux nouveaux entrants.
Et quand ils sont rentrés il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quelqu'un qui était à 2 ans de la fin de la retraite, il a fait toute sa carrière sur une base contractuelle qui inclut l'ensemble des droits à la retraite. Et on ne va pas lui changer en disant tout le monde. Donc la clause du grand-père, c'est progressif. J'ai 10 ans sur les 40 ans, j'ai 20 ans sur les 40 ans, et je passe sur le nouveau système en proportion de ce qui me reste à faire pour acquérir mes droits. C'est un principe. Par contre, c'est très long. Et que ne l'a-t-on fait ? Il y a déjà plusieurs années.
On marque une pause dans un instant pour redire un mot de ça. Si vous voulez, il y avait un autre effet potentiellement négatif dans une nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est que quand vous durcissez les conditions générales, eh bien les gens ont tendance, parfois c'est vrai, à vouloir reprendre un emploi plus rapidement, mais quelquefois des gens prennent un emploi un peu moins qualifié que ce qu'ils devraient normalement ou ce à quoi ils pourraient prétendre. Ce qui fait que celui qui n'a pas de qualification, lui, se retrouve souvent le bec dans l'eau.
C'est vrai.
Il y a quand même des arguments. Mais bon, on marque une pause.
Il y a l'idée aussi d'expérimenter.
On marque une pause. On parle que d'argent, là, pour l'instant. Il y a quand même un excellent travail qui est fait par France Travail pour essayer d'insérer.
C'est vrai.
On se retrouve dans un instant, et puis vous me direz ce que vous pensez de l'émotion du monde universitaire. Moi, je les ai compris, ces gens du monde universitaire.
Je vous ai compris.
Oui, c'est ça, voilà. 904 millions d'euros, ça veut dire qu'en fait, leur budget augmente de 300 millions d'euros cette année contre 1 milliard d'euros qui était prévu. C'est quand même pas exactement la même chose. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.